Si l'on est susceptible de remplacer qui l'on aime, c'est que l'on n'aime pas vraiment.
Bonjour à vous, c'est Pascal Claude. Merci d'avoir décidé de nous écouter. La vie, ses signes et ses énigmes, c'est tout de suite avec Philippe Forest.
La première,
13h15, 14h le dimanche.
Et Dieu dans tout ça,
Pascal Claude.
La nuit dit mieux la vérité de la vie. Elle la transforme en une sorte de théâtre d'ombre sur la scène duquel, où que l'on soit, les spectres familiers auxquels le jour avait provisoirement donné congé reprennent du service et offrent à qui les observe la représentation inchangée des songes que chacun emporte avec soi. Le spectacle se suffit à lui-même si l'on se montre attentif moins aux choses qu'aux silhouettes qu'elles découpent dans l'obscurité et aux formes que l'imagination leur prête, lâchant la proie pour l'ombre, comme s'il y avait davantage à apprendre de la seconde que de la première, et qu'elle seule se trouvait susceptible de révéler à qui l'observe le vrai visage de la vie. C'est ce qu'écrit Philippe Forest dans son nouveau roman « Il est à nos côtés ». La raison redéfinie par un chercheur en sciences cognitives, c'est vers 13h50 dans notre grand dictionnaire en compagnie de Martin Legros du Philosophie Magazine. Soyez les bienvenus dans « Et Dieu dans tout ça ».
Le magazine des philosophies et des religions, sur la première.
Philippe Forest, vous êtes écrivain, romancier et essayiste. Pi Yingzi, Théâtre d'ombre, c'est le titre de votre nouveau roman, votre roman chinois, comme vous le surnommez. Et votre essai consacré au célèbre roman Ulysse de James Joyce ressort aussi ces jours-ci à l'occasion des 100 ans d'Ulysse. Nous en parlerons, nous évoquerons également ces ombres à observer la nuit et nous voyagerons jusqu'en Chine avec vous. Mais d'abord, j'aimerais, sans trop en dire, évoquer les dernières pages de votre nouveau roman. Vous y évoquez un poème de Paul Claudel, que vous connaissez manifestement par cœur, son titre « Dissolution ». Il y est question, dans ce texte, de larmes qui coulent sur sa joue. Alors voici ma première question, Philippe Forest. Que disent nos larmes ?
Mon idée, c'est qu'elles révèlent un peu la vérité de ce que nous sommes et la vérité de la vie. Moi, j'ai toujours été très touché par ce poème de Claudel, qui est le dernier de Connaissance de l'Est, le recueil dans lequel il évoque ses années chinoises et notamment la grande histoire d'amour qui a donné lieu par la suite à des pièces comme Partage de midi ou Le soulier de satin. Une histoire d'amour qui a été aussi une histoire d'adieu. Et voilà, les larmes, elles expriment cet adieu à ce que nous avons aimé. Et cet adieu, il dit l'essentiel de ce que nous sommes, je crois.
Les larmes qui témoignent, écrivez-vous, malgré tout, de la vérité intacte de la vie. La vérité, Philippe Forest, c'est un mot auquel vous tenez beaucoup et particulièrement dans le champ de la littérature. Pourquoi ?
Ah, parce que je pense que la fiction, à laquelle je crois également, elle n'a de sens, de vertu, de valeur que dans la mesure où elle nous permet de, non pas de posséder la vérité, comme le disait Rimbaud, c'est peut-être un peu trop ambitieux, trop excessif, mais en tout cas d'approcher cette vérité à laquelle nous devons être fidèles. En tout cas, moi, c'est ma conviction. Je ne crois pas tellement...
Autre mot important pour vous, c'est le mot fidélité.
Oui, absolument. Oui. Je ne crois pas tellement à la littérature de pur divertissement, même si, et jusque dans ce livre, j'essaie de donner la forme la plus divertissante possible, disons, au récit que je fais. Je joue avec les codes de la littérature de genre. Il y a une sorte de suspense dans le livre, comme dans mes précédents ouvrages. Mais je pense que la fiction, elle n'a de vertu que si elle fait signe vers la vérité.
Et qu'est-ce que c'est pour vous la vérité de la vie, Philippe Forest ?
Si je le savais, je me contenterais de le dire en une phrase. Mais c'est précisément parce qu'elle m'échappe que j'en suis à mon 10e roman et à mon 30e essai, je crois.
Mais vous approchez pas à pas de cette vérité, peut-être ?
Je ne crois pas. J'aime beaucoup le livre de Kierkegaard qui s'appelle « La reprise ». Je pense que la vie est une perpétuelle reprise, un souvenir continuellement projeté en avant. Donc on recommence, on reprend, on repart, mais sans jamais s'approcher vraiment du point vers lequel pourtant on va. Voilà.
C'est le décès de votre fille, Philippe Forest, qui vous a poussé à écrire votre premier roman, « L'enfant éternel », sorti en 1997, c'était il y a déjà 25 ans. Et depuis, vous ne cessez de vous opposer à ce que vous appelez la religion de la résilience. Avant d'en parler, écoutons ces quelques bribes de discours à propos de l'expérience du deuil.
Oui, il est possible de traverser les plus grandes épreuves de la vie et de survivre.
Il est possible de reprendre un nouveau développement après un traumatisme grave spectaculaire ou insidieux.
Oui, c'est possible. Après une séparation, après un deuil, après un licenciement, une maladie, c'est possible de remonter la pente.
Philippe Forest, qu'est-ce qui vous dérange éventuellement dans ce que nous venons d'entendre ?
Alors qu'il faille survivre, j'en suis bien conscient et j'en suis bien d'accord. Et d'une certaine manière, j'en apporte moi-même la preuve. Mmh. Vous disiez que ce livre que j'avais consacré à la mort de ma fille datait d'il y a maintenant 25 ans. Mmh. Et depuis, j'ai continué à écrire. J'ai même commencé à écrire à cette occasion et je n'ai cessé d'écrire depuis. Et mais toujours dans la fidélité à cette expérience. Ce qui me gêne du côté de ce que j'appelle la religion de la résilience, c'est cette pensée positive qui, d'une manière ou d'une autre, qu'elle l'avoue ou pas, vise à dissimuler la part, ou à effacer, ou à amoindrir en tout cas la part du tragique dans notre existence. Alors je pense que c'est seulement en se confrontant à cette dimension tragique de la vie qu'on a une chance précisément de pouvoir survivre autrement que sous la forme de cette conformité à une certaine norme que la société nous impose. Je crois vraiment que la religion de la résilience, ce que j'appelle ainsi, c'est l'idéologie de la société, disons néolibérale, qui est désormais la nôtre, et à laquelle l'art, la littérature, ou même, enfin, indépendamment de l'art et de la littérature, chacun d'entre nous doit s'opposer, doit résister, s'il veut rester libre et fidèle justement à cette vérité dont nous parlions.
Est-ce s'opposer à cette religion de la résilience, c'est pour vous, vous le dites à plusieurs reprises, un enjeu proprement politique. Il s'agit alors de penser davantage aux endeuillés, aux esseulés, Philippe Forest ?
Oui, et puis surtout ne pas faire honte ou ne pas culpabiliser ceux qui justement se trouvent confrontés à cette expérience du tragique et veulent rester fidèles. Moi, j'ai commencé à réfléchir sur tout ça, bien sûr dans le livre dont on a déjà parlé, mais parce qu'à l'époque, il y avait une injonction très forte, et c'est toujours le cas, mais une injonction très forte qui était adressée aux personnes qui avaient perdu un proche, et notamment un enfant, une injonction à faire son deuil. Comme si c'était vraiment une obligation, un impératif à la fois moral et même social et politique. Or, il n'y a pas lieu de faire son deuil si faire son deuil, ça veut dire, comme l'expliquait Freud d'ailleurs, hein, substituer à la personne que l'on a perdue une autre personne dans laquelle on puisse investir son affection. C'est très économique tout ça. On investit, on veut que ça rapporte, on veut transformer la perte en profit. On envisage les individus comme des biens qui sont susceptibles d'être produits, réparés s'ils sont défectueux.
Qu'il y a de l'irréparable dans une vie.
Oui, il y a de l'irréparable dans la vie et il y a de l'irremplaçable chez ceux que l'on aime. Si l'on est susceptible de remplacer qui l'on aime, c'est que l'on n'aime pas vraiment. Voilà.
J'ai fait de ma fille un être de papier, écrivez-vous à la fin de L'Enfant éternel. Des mots qui résonnent comme un échec, en tout cas comme une insuffisance, Philippe Forest.
Ah, certainement, mais je suis heureux que vous me disiez ça. Et je suis étonné que certains lecteurs, ayant lu cette formule qui se trouve à la fin du livre, l'entendent plutôt comme une proclamation de victoire, comme si c'était quelque chose de formidable que de pouvoir transformer une personne réelle en un personnage de papier, en un personnage de roman. Non, non, vous avez tout à fait raison et vous m'avez bien lu. C'est au contraire une manière pour moi de dire que, même si la littérature est essentielle, hein, je ne vais pas dire le contraire, elle est insusceptible de triompher de la mort et de soigner durablement la peine.
À la fin de votre nouveau roman, vous écrivez encore ceci. « Je n'ai fait que redonner une forme nouvelle au récit de ma vie, telle que je n'ai cessé de la réinventer avec chacun de mes livres. » Je me suis demandé, pourquoi avez-vous ce besoin de réinventer votre vie au travers de vos livres ? Ça vous apporte quoi, en fait, Philippe Forest ?
Et je crois que chacun d'entre nous le fait, que nous soyons écrivains ou pas, que nous soyons lecteurs ou pas, c'est-à-dire chacun d'entre nous porte en lui une sorte de roman mental par lequel, avec lequel il réécrit en permanence ce qu'il a été, ce qu'il est. Bon, la différence, c'est que ce qu'on appelle des écrivains éprouve le besoin de poser sur le papier, de consigner par écrit ce roman mental qui est le lot de chacun d'entre nous. Alors pourquoi ? Bah peut-être parce que on arrive à aller plus loin au sein de ce roman mental, plus profondément, on voit apparaître davantage de choses, justement, si on en passe par l'écriture, plutôt que si on laisse ce roman mental, disons, un peu informulé.
On descend davantage au fond de soi, Philippe Forest ?
Oui, peut-être. Pas toujours, parce qu'il y a des romans qui restent à la surface des choses, qui sont très superficiels. Et à l'inverse, vous pouvez avoir des gens, ça peut être des sages, des saints, ou des gens apparemment ordinaires, mais qui en vérité ne le sont pas du tout, qui arrivent à une profondeur, une complexité, donc qui n'est pas forcément le lot des écrivains dont je parlais précédemment.
On écrit parce que quelque chose manque au monde. Il n'y a de récit que de ce qui a disparu, dites-vous. Donc les mots, les phrases sont toujours le reflet d'un deuil en quelque sorte, Philippe Forest ?
Oui, d'une incomplétude, d'une insatisfaction. Je pense que si on était comblé, si on était parfaitement heureux, si on était totalement satisfait, on n'écrirait pas. Il faut qu'il y ait quelque chose qui cloche dans l'expérience de la vie pour que justement on se tourne vers ce roman mental pour essayer de l'interroger, de l'approfondir, de le développer. Alors bien sûr, ça n'est pas forcément un deuil, c'est peut-être simplement cette perte du présent à quoi nous condamne en quelque sorte le passage du temps.
Vous rapprochez aussi, Philippe Forest, les notions de désir et de deuil. Qu'est-ce qui les lie ? Qu'est-ce qui les relie en fait ?
Parce que dans le désir et dans l'œil, on est toujours en rapport avec quelque chose qui nous manque et à quoi l'on tient. Le désir, c'est aussi, la psychanalyse le...
Désirer, c'est manquer ?
On ne désire que ce qui vous manque, dans l'espoir d'abolir ce manque. Mais c'est un espoir qui est déçu, même dans la relation amoureuse la plus heureuse. Moi, j'aime beaucoup citer cette phrase de Proust, qui se trouve au début de La Recherche du Temps Perdu, où il dit, il parle de l'acte de possession physique dans lequel on ne possède jamais rien. Mmh. Il faut être un homme pour s'imaginer que faire l'amour à une femme, c'est la posséder. Mais faire l'amour quand on est un homme ou une femme de façon un peu intelligente et éveillée, c'est comprendre justement que même dans la fusion amoureuse ou la fusion érotique, il y a une expérience de l'altérité qui est essentielle. Mmh. Donc désirer, c'est désirer ce qui nous manque. Bon, la philosophie le dit depuis les origines avec Platon et le Banquet. Donc du coup, il y a un rapport avec le deuil, parce que le deuil, c'est être dans une relation, disons, amoureuse, enfin au sens large de l'adjectif amoureux, une relation amoureuse avec quelque chose ou quelqu'un que l'on a perdu.
J'ai toujours pensé qu'on écrivait non pas pour durer, mais pour disparaître, dites-vous, Philippe Forest. Écrire, c'est effacer, s'effacer en laissant malgré tout une trace ?
Oui, je ne sais pas si je suis en mesure d'expliquer jusqu'au bout cette formule qui a l'apparence d'un paradoxe, mais moi je ne crois pas du tout... Je ne crois pas du tout à la postérité, particulièrement aujourd'hui où la littérature est devenue une chose si subalterne, si secondaire, si fragile.
Ça a l'air de vous attrister, ça, parce que vous y revenez régulièrement dans vos textes.
Un petit peu quand même.
C'est votre métier.
Considérer ce qu'il en est de la littérature aujourd'hui, c'est quand même un spectacle un peu attristant, sinon affligeant. Bon, mais je pense qu'il faut en prendre son parti. Et ça n'est pas très important, parce que finalement, on écrit surtout pour le présent, mais...
De et pour disparaître, donc, Philippe Forest.
Oui, pour disparaître, parce que je pense que... Je ne sais pas si je peux vraiment répondre à votre question. C'est quelque chose qui m'a toujours fasciné chez certains écrivains. Alors, on pense tout de suite à Rimbaud ou à d'autres qui ont cessé d'écrire. Mais ce fut le cas aussi d'auteurs très anciens. Racine, à un moment, cesse d'écrire. Shakespeare, très étonnamment, cesse d'écrire aussi. Et c'est d'ailleurs le sens de sa dernière pièce, La Tempête. Hein. Le magicien dit qu'il va briser sa baguette magique et noyer son livre de formules. Voilà, c'est quelque chose qui fascine beaucoup d'artistes et d'écrivains. Et moi, à mon modeste niveau, j'éprouve aussi cette fascination. Comme si on écrivait pour pouvoir cesser d'écrire. Mais bien sûr, ça supposerait qu'on réussisse enfin à écrire. Et comme ça n'est pas le cas, on continue.
Pi Yingzi, Théâtre d'ombre, c'est donc le titre de votre nouveau roman. Vous vous appuyez sur plusieurs séjours que vous avez effectués en Chine ces 15 dernières années. On vous invite en tant qu'écrivain et en tant qu'universitaire. Et c'est là que vous avez vu ces ombres, ce théâtre d'ombre, puisque selon vous, la nuit dit mieux la vérité de la vie. Pourquoi, Philippe Forest ?
La scène que je raconte dans le livre, qui a vraiment eu lieu, qui a lieu encore aujourd'hui, mais qui m'a surpris parce que je n'étais pas préparé à un tel spectacle.
Ouais, vous avez vu de minuscules feux de camp observés dans les rues de Shanghai, c'est ça, hein ?
Oui, de Shanghai, mais de toutes les grandes villes chinoises, parce qu'en fait, on fête les morts ainsi en Chine. Alors, on va brûler en principe sur les tombes un certain nombre de figures en papier qui correspondent aux offrandes que l'on veut adresser aux défunts. Autrement dit, on brûle l'image d'un objet avec l'idée que cet objet, du coup, va se retrouver en possession des morts. Enfin, c'est le vieux principe du sacrifice, de l'offrande. Sauf que quand on ne peut pas se rendre sur la tombe, on peut faire brûler ces effigies de papier où l'on veut, en fait, et dans les rues des villes chinoises. J'ai vu effectivement des gens qui brûlaient des papiers un peu partout, à tous les coins de rue. Et je me suis demandé ce que c'était jusqu'à ce qu'on m'enseigne le sens de cette tradition.
Et racontez-nous alors ce qu'est l'art du Pingzi.
C'est tout simplement ce qu'on appelle, nous, les ombres chinoises. Voilà. Sauf que les ombres chinoises, pour nous, ça évoque plutôt ces formes que l'on fait avec ses mains, en projetant une ombre sur un mur. Alors que dans la tradition chinoise, il s'agit de petites marionnettes, de pantins articulés et colorés, dont on projette l'ombre sur un écran en papier. Comme je le dis, ça ressemble beaucoup à notre guignol. C'est un art destiné surtout, un art populaire destiné aux enfants. Mais m'a frappé donc le rapprochement entre ce théâtre d'ombre chinois et la fête des morts, donc telle que je l'ai vue célébrée lors de l'un de mes premiers voyages en Chine.
Que nous racontent les ombres, Philippe Forest ?
Le mot d'ombre est très, très séduisant, je trouve. Hein. On peut penser à Platon et à la célèbre allégorie de la caverne, comme si nous ne connaissions de la réalité que les ombres que celle-ci projette. Ça renvoie aussi aux disparus. Hein. Les ombres, ce sont les morts. Et puis, il y a cette idée que nous-mêmes, peut-être, nous sommes semblables à des ombres. Où est la réalité ? Où est la fiction ? Où est l'objet et où est son ombre ? Je crois qu'un écrivain, c'est quelqu'un qui se pose nécessairement ces questions et qui s'interroge sur les apparences parmi lesquelles nous passons et sur ce à quoi elles renvoient peut-être, ce qu'elles révèlent peut-être.
Et Dieu dans tout ça.
13h15, 14h le dimanche.
Sur la première.
On ne s'en va pas dans sa valise, on met toujours toute sa vie. Ce sont les mots de l'écrivain Philippe Forest qui est notre invité. Pingzi, c'est votre nouveau roman et à plusieurs reprises, vos valises, vous les avez bouclées pour vous rendre en Chine. Où que je sois, près de chez moi, comme à l'autre bout du monde, je ne peux pas m'empêcher de m'imaginer qu'il y a quelque chose à découvrir qui, d'une certaine façon, se trouve en relation avec ma vie et qui, si je comprends quoi, m'en révélera peut-être le sens. C'est ce que vous écrivez, Philippe Forest. Qu'avez-vous trouvé jusqu'ici ?
J'ai trouvé des signes qui m'ont renvoyé à d'autres signes, qui à leur tour m'ont renvoyé à d'autres signes. Et c'est un peu ce que je raconte dans ce livre, qui évoque le monde à la manière d'une sorte de labyrinthe dont il n'y a peut-être pas lieu de sortir, dont on ne découvre pas nécessairement le centre, mais qui finit par organiser la réalité du monde et la réalité de sa propre vie.
Oui, parce que ce que l'on comprend en vous lisant, c'est qu'au fond, il n'y a peut-être précisément rien à comprendre. Rien à comprendre à la réalité, rien à comprendre à la vie. Et cela malgré les énigmes, les signes, les mystères que vous évoquiez, Philippe Forest.
Disons que peut-être ce qu'il y a à comprendre, c'est précisément qu'il n'y a rien à comprendre. Et c'est relativement difficile parce que justement, on aborde l'existence avec toutes sortes de fausses certitudes qui doivent être abandonnées les unes après les autres. Donc c'est quand même un roman initiatique, si on veut, en direction d'une vérité, même si, au bout du compte, elle a peut-être une allure un peu paradoxale, voire décevante.
Ça veut dire qu'apprendre à vivre, c'est apprendre à désapprendre, Philippe Forest ?
Oui, moi je vois assez les choses comme ça, oui. Apprendre à désapprendre ce que l'on nous avait appris, de manière à se confronter à cette vérité un peu vide qui est la condition de notre liberté. Il faut s'être débarrassé de toutes les fausses certitudes que l'on nous enseigne, de toutes les visions que nous impose le dogme ou l'idéologie tout particulièrement. On vit à une époque où l'idéologie est particulièrement prégnante, je veux dire, dans le contexte de l'actuelle crise sanitaire. Mmh. Donc, la littérature, elle a une vertu si justement elle nous permet de nous détacher de ce discours de la propagande, de l'idéologie et des fausses croyances.
Nous aurions ce besoin de désapprendre, mais en même temps, nous autres, les êtres humains, nous avons cette manie, cette envie, ce besoin de sans cesse injecter du sens, Philippe Forest.
Oui, il faut croire aussi. Hein. On ne peut pas ne pas croire complètement. Et ce livre, c'est aussi un livre sur la croyance et ses différentes formes, jusqu'aux superstitions, parce que le personnage du narrateur, qui est bien évidemment mon double, il interroge justement tous ces signes qu'il voit apparaître autour de lui. Et il ne peut pas ne pas y croire tout à fait. Il a le sentiment qu'il l'entraîne quelque part. Et d'ailleurs, c'est bien le cas, comme on s'en aperçoit à la fin du livre.
Oui, parce que dans votre roman, en Chine, votre personnage, votre double, il va tomber sur des livres qu'il pourrait avoir écrits, sur des écrivains qui ont vécu, comme vous, l'expérience du deuil, qui ont été confrontés à la mort d'un enfant. Et vous vous demandez, que signifie ce déjà-vu, ce déjà-lu, ce déjà-vécu, avant de nous dire que ça n'est pas de l'ordre du surnaturel, Philippe Forest ?
Non, je ne crois pas au surnaturel. Je crois être un esprit plutôt rationnel, mais malgré tout, je suis convaincu que les signes et les superstitions qui les accompagnent, malgré tout, nous permettent de donner un sens auquel on ne croit pas entièrement, mais un sens malgré tout à ce que nous avons vécu et à ce que nous sommes. Donc c'est un peu là-dessus que je joue dans ce livre comme dans les précédents, en évoquant effectivement la manière dont je rencontre, au hasard de mes voyages et très loin donc de chez moi, un certain nombre d'œuvres littéraires notamment qui me semblent correspondre à ce que j'ai moi-même écrit et donc à ce que j'ai moi-même vécu. J'ai toujours fait ça dans mes livres. Dès le premier, j'évoquais Hugo et Mallarmé, ces deux très grands poètes français qui ont tous les deux écrit sur la perte de leur enfant. Je l'ai fait à nouveau dans le livre précédent qui évoquait la figure de Churchill, dont on ne sait pas souvent qu'il a lui-même perdu un enfant, mais qui a été accompagné toute son existence par ce deuil. Et là, c'est à nouveau la même chose. Je rencontre en Chine des livres qui me parlent de cette expérience et qui m'obligent en quelque sorte à retourner vers elle.
Pour chacun d'entre nous arrive l'heure où nous nous éveillons à la triste vérité. Ça, c'est une phrase que vous auriez pu écrire. De qui est-elle ?
Je ne sais plus. Si c'est un des écrivains que oui, j'évoque dans le livre, oui. Il s'agit de Pearl Buck, sans doute.
Gagné. Voilà. L'une des premières femmes
je finis par plus
à
trop
recevoir le prix Nobel de littérature.
Je finis par plus trop savoir parce que ce que je fais depuis toujours, c'est écrire mes livres en passant par la réécriture des livres des autres. Donc au bout d'un moment, je ne sais plus très bien ce qui est de moi et ce qui est d'un autre. Moi-même, je m'y perds et mon lecteur s'y perd. Mais le but de la manœuvre, c'est de s'y perdre tous ensemble.
Pearl Buck qui disait qu'on apprend davantage du chagrin que de la joie. Et manifestement, vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec elle.
Oui, parce que il y a quelque chose de comique aussi dans l'expérience de la perte. Parce que qu'est-ce que c'est finalement que le comique ? C'est la manière dont on se protège du néant et du vide en choisissant d'en rire plutôt que d'en pleurer, selon une formule très, très célèbre. Donc il y a quelque chose de comique aussi dans ce livre qui raconte l'histoire d'un type qui va au bout du monde pour finalement s'apercevoir qu'il y retrouve ce qu'il avait quitté à deux pas de chez lui.
Arrêtons-nous encore quelques instants, si vous le voulez bien, Philippe Forest, sur cette idée de signe, sur cette idée de déjà-vu. Vous écrivez à un moment à propos de cette impression de déjà-vu qu'elle témoigne de ce seul souci de soi avec lequel chacun considère le monde, n'y prêtant finalement attention qu'à ce qui lui parle de lui. C'est donc une forme d'égoïsme, Philippe Forest.
Oui, mais qui est, à mon avis, indispensable et salutaire. Oui. J'ai déjà cité Kierkegaard, qui est un de mes philosophes préférés. Et Kierkegaard dit que la subjectivité, c'est la vérité. Autrement dit, on ne peut avoir accès à la vérité qu'à condition que cette vérité, on l'aborde à la première personne du singulier, finalement. Il s'agit de se confronter soi-même, singulièrement, subjectivement, au monde.
Pourquoi vous méfiez-vous de la mémoire, Philippe Forest ?
Je méfie de la mémoire, même si je travaille essentiellement avec elle, parce qu'elle fabrique des fictions, ce qu'on appelle des faux souvenirs. Donc, il s'agit d'en passer par ces fictions, d'en passer par ces faux souvenirs, mais sans céder à l'illusion que le passé serait quelque chose de solide sur quoi on puisse s'appuyer. J'aime beaucoup cette phrase de ce proverbe italien qu'a cité il y a quelques années Eri De Luca, qui dit qu'il croit plus au futur qu'au passé, parce que le passé, lui, il n'arrête pas de changer. Ben, ça me semble assez juste. Moi aussi, et c'est pour ça que je suis un partisan de la reprise, je crois davantage au futur qu'au passé. Le passé, il ne vaut que si on le réinvente, sans céder à l'illusion qu'il est un socle solide sur lequel on puisse baser son identité. Je ne crois pas tellement non plus à l'idée d'identité.
À propos de la Chine, vous écrivez « Ne pas connaître ce pays est peut-être le meilleur moyen de le comprendre ». Et plus loin, et à plusieurs reprises dans votre nouvel ouvrage, vous dites « Ne pas le connaître et ne pas le comprendre ce pays qu'est la Chine ». Pourquoi, Philippe Forest ?
Je le dis par prudence, parce que bon, j'ai beau être allé assez souvent en Chine depuis une quinzaine d'années, pratiquement tous les ans pour des séjours de quelques semaines. Bon, je ne parle pas le chinois. Je ne le lis pas, bien sûr. Donc, j'ai une connaissance quand même assez superficielle de la réalité chinoise. Déjà, on me demanderait de définir l'âme européenne ou l'âme française. Je ne m'y risquerais pas, parce que tout simplement, je crois que ça n'existe pas. C'est ce que je vous disais de ma méfiance à l'égard de la notion d'identité. Alors, a fortiori, dire en quelques pages ce que c'est que l'âme chinoise, ça relève de la supercherie, de l'imposture. Bon, il y a un public pour ça. Hein.
Ouais.
Il y a des gens qui veulent lire des livres, qui vont leur expliquer en 15 pages tout ce qu'il faut savoir sur la Chine sans y être jamais allé. Bon, mais c'est pas vraiment comme ça que fonctionne la littérature, en tout cas telle que moi je l'envisage.
Vous vous méfiez de la notion d'identité. Ça signifie que si je vous demande qui êtes-vous, Philippe Forest, vous ne pouvez pas me répondre ?
Je serais très embarrassé si vous me posiez la question, ou si quiconque me posait la question. Non, je crois que l'identité, c'est quelque chose de très mystérieux, de très fluctuant. On est la somme de ce que l'on a été, de ce que l'on fait, bien sûr, mais on est aussi la somme de tout ce que l'on aurait pu être et que l'on n'a pas été. Il y a une phrase de Joyce que j'aime beaucoup, il parle de l'infinie possibilité des possibles. Voilà, notre identité, elle est faite de cette infinie possibilité des possibles dont la plupart sont restées inaccomplies. Donc tout ça ne se laisse pas enfermer dans un quelconque portrait. Je ne vois pas très bien, sinon de manière très superficielle, quel portrait psychologique de moi je pourrais faire.
Dans votre nouveau roman, vous racontez également la Chine d'aujourd'hui, que vous avez vu changer ces dernières années. Avant d'en parler, écoutons Jean-Paul Sartre qui nous parle de l'écrivain et de son engagement.
On n'écrit pas, on ne parle pas dans le désert. Ainsi, puisque c'est là ce que veut l'écrivain, nous dirons que l'écrivain est, une fois pour toutes, s'il est vraiment un écrivain, responsable de la liberté humaine. La liberté se fait au jour le jour et concrètement, dans des actions concrètes où elle est impliquée. Et par conséquent, lorsque nous parlons d'un engagement de l'écrivain et d'une responsabilité de l'écrivain, il ne s'agit pas d'un engagement au nom d'une liberté abstraite. La liberté à laquelle il fait appel quand il écrit, c'est une liberté concrète qui se veut elle-même en voulant quelque chose de concret. C'est à une indignation à propos d'une chose concrète, c'est à une volonté de changer concrète qu'il fait appel.
Jean-Paul Sartre, en 1946, lors d'une conférence à l'UNESCO à propos de la responsabilité de l'écrivain. Et je crois que vous êtes plutôt d'accord avec lui, Philippe Forest.
Oui, même si je suis frappé par la manière dont Sartre s'exprime, et il me semble qu'aucun écrivain aujourd'hui ne pourrait plus s'exprimer ainsi. Mais bon, ça c'est un détail. Mais sur le fond, oui, l'écrivain, il est du côté de la liberté. Ce qui constitue l'écrivain, pour moi, ce sont deux qualités essentielles. La curiosité, on en a parlé précédemment, cette curiosité qui nous amène à questionner notre propre roman mental, les signes du monde autour de nous. La curiosité, donc, mais aussi la colère. C'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le monde que l'on écrit. Et c'est donc pour dénoncer ce quelque chose qui ne va pas. Sur le terrain, si vous voulez, métaphysique, la mort fait que quelque chose ne va pas dans l'expérience humaine. Mais aussi sur un terrain beaucoup plus concret, qui est celui de la réalité politique, économique, d'où la manière dont je dénonce dans mes écrits la religion de la résilience, pour reprendre ce terme, ou les choses que je dis dans le livre sur le système chinois, ou sur le système qui est le nôtre, qui ressemble par bien des traits, quoi qu'on veuille en penser, à ce système que nous dénonçons avec un peu de facilité et d'aisance.
Mais qu'est-ce qu'un écrivain engagé en Chine aujourd'hui, Philippe Forest ?
Ben c'est ce qui est très difficile, c'est qu'il y a, comme chacun le sait, mais moi, disons que je l'ai vu de mes propres yeux ces dernières années, il y a une sorte de virage politique.
Un climat nouveau qui pèse depuis peu sur le pays, écrivez-vous.
Voilà, et qui conduit à la remobilisation idéologique du pays qui met les écrivains en chinois en difficulté parce qu'ils ont de moins en moins la possibilité d'être en porte-à-faux par rapport au discours officiel qui est promu par le pouvoir. L'idée que l'actuel président chinois affirme, avance, assène, c'est que l'écrivain doit être au service de la cause nationale, de la cause communiste. Du coup, toute personne qui produit une littérature un peu critique ou même insuffisamment au service donc de cette cause apparaît de plus en plus comme suspect. Ça, je l'ai vu et je peux en témoigner, oui.
Est-ce que vous savez déjà, par exemple, si ce nouveau livre dans lequel vous critiquez d'une certaine manière le régime chinois va être publié en Chine ?
Mais je l'ai envoyé à ma traductrice chinoise qui m'a dit qu'elle souhaitait très vivement le traduire et le faire publier. Mais que bien naturellement, il y aurait un certain nombre de passages du livre qui seraient oubliés ou
bien
censurés,
naturellement,
si vous voulez. Oui, parce que c'est comme ça que les choses se passent là-bas. Mais je crois que c'est très important de conserver un dialogue entre écrivains européens et écrivains chinois. Et ce dialogue, ça oblige à un certain nombre de concessions qui ne sont pas nécessairement des compromissions. De toute manière, moi, ce qui me frappe dans le livre, c'est moins la critique qu'il adresse au régime chinois que la manière dont il réfléchit sur la façon dont notre propre système démocratique ressemble beaucoup et de plus en plus au totalitarisme tel que la Chine communiste en témoigne. Donc pour moi, c'est un livre qui est peut-être plus critique à l'égard de la démocratie européenne sous les formes nouvelles qu'elle emprunte, qu'à l'égard de la Chine.
Mais il a été publié sans concession en France et en Belgique.
C'est vrai, oui. Mais sera-t-il lu ? Parce que le système qui est le nôtre est différent, bien sûr. Il n'y a pas de censure officielle, mais malgré tout, l'idéologie pèse sur chacun d'entre nous et donc va favoriser la diffusion de certains livres au détriment d'autres. Bon, mais la partie n'est pas perdue, la preuve,
non,
on parle de ce livre
à la
radio,
oui.
Il y a des articles dans la presse sur ce livre.
Et donc, en plus, il est très très beau ce livre. Il nous reste très peu de temps, mais j'aimerais tout de même que nous parlions un tout petit peu d'Ulysse, le fameux roman de James Joyce aura 100 ans la semaine prochaine. Le livre a paru en France le 2 février 1922. Écoutons à ce propos Sylvia Beach. Elle a fait éditer le livre en France avec Adrienne Monnier, alors que ce livre était interdit en Grande-Bretagne et aux États-Unis.
Il me racontait ce qui arrivait à la publication de son livre en Amérique. Ulysse était en train de paraître dans The Little Review. Mais 4 fois, la police de New York l'avait supprimé. Et la quatrième fois, c'était supprimé définitivement. Il est venu un jour me dire, ça y est, Miss Anderson et Miss Heap ont été arrêtées, c'était les éditrices, et traînées devant le tribunal, et la revue a été supprimée, et mon livre aussi, naturellement. Alors, ce livre étant défendu en Angleterre, il ne restait qu'à la faire paraître en France. Et j'ai décidé de faire imprimer 1000 exemplaires. Joyce ne m'encourageait pas beaucoup, parce qu'il disait, « Jamais vous ne vendrez un exemplaire de ce livre si ennuyeux. »
Et manifestement, James Joyce s'est trompé, Ulysse a été lu et s'est vendu. Vous connaissez bien ce livre, Philip Forrest, vous l'aimez beaucoup, vous lui avez consacré un essai qui ressort, je le disais, ces jours-ci, et qui a pour titre « Beaucoup de jours ». Allez, je vous laisse une minute. Pourquoi est-ce que ça n'est pas un livre ennuyeux? Et pourquoi vaut-il le détour, Philip Forrest?
Alors, on aurait beaucoup d'idées fausses sur l'Ulysse de Joyce qu'on présente comme un livre extraordinairement cérébral, intellectuel et à ce titre fastidieux. En vérité, moi, ce qui m'a frappé quand j'ai relu, donc il y a 10 ans, Ulysse pour faire ce livre, c'est que c'est un grand roman sur la vie qui raconte une journée, donc le 16 juin 1904, dans une ville qui est la ville de Dublin, dans la vie d'un homme qui s'appelle Léopold Bloom, qui est donc, si on veut, un moderne Ulysse, hein, puisque tout le roman repose sur la réécriture de l'Odyssée d'Homère, mais qui est aussi un individu comme vous et moi. Il sort de chez lui le matin, bon, il se doute que sa femme va le tromper, et donc il trouve toutes les excuses possibles pour retarder jusqu'à la nuit d'après son retour dans le lit conjugal. C'est un grand roman d'amour. Il y a une question que se pose le personnage secondaire, Stephen Dedalus, le jeune poète, il se demande quel est ce mot que tous les hommes savent. Joyce ne répond jamais à cette question-là, sauf dans une version de son manuscrit qu'il a fait finalement disparaître. Hein. Ce mot que tous les hommes savent, il dit que c'est tout simplement l'amour. Et c'est ce qui résonne dans le grand monologue de Molly Bloom qui se trouve à la fin du livre, hein. L'épouse de Léopold. Hein, là, ça se termine par une phrase très fameuse, « J'ai dit oui, je le veux, oui ». Voilà, c'est ce oui d'assentiment à la vie, ce oui d'assentiment au désir. Voilà, c'est ça la morale d'Ulysse. Alors après, il y a des choses très compliquées dans le livre. Enfin, en tout cas, des choses qui peuvent paraître très compliquées.
On commence à le lire par la première page, on va plus loin dans le livre. Il y a une méthode? En un mot? En deux mots? En quelques mots?
La bonne méthode, je vais faire de la publicité pour mon propre livre, c'est de prendre mon livre, certains l'ont fait, hein, certains lecteurs l'ont fait, chacun des chapitres de mon livre accompagne en quelque sorte l'un des chapitres d'Ulysse. Donc il faut lire alternativement, voilà. Soit en commençant par Ulysse, soit en commençant par mon livre, chacun des chapitres du roman, qui va être éclairé par l'un des chapitres de mon essai. Voilà.
Voilà, coup de pub, coup de promo. Merci d'avoir été avec nous, Philip Forrest. Et merci et bravo pour Pi Ying Zi, Théâtre d'ombre, votre nouveau roman. C'est labyrinthique, énigmatique, philosophique et même parfois, voire souvent, drôlatique. Merci beaucoup, Philip Forrest. Bonne journée.
Merci à vous.